Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi. Dans 3, 2, 1, action!
Bonjour, bienvenue à notre deuxième épisode de la deuxième saison de En action. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on reçoit Karine Gravel, qui est nutritionniste et docteur en nutrition, pour discuter de nutrition, évidemment. Bonjour Karine!
Bonjour Daniel, merci pour l'invitation.
Ben, ça me fait plaisir, merci à toi d'être présente puis de te prêter au jeu de cette entrevue. Karine, j'ai une grosse question, direct en commençant. Là. je sais que ta spécialité, c'est la nutrition intuitive. De où ça vient cette idée-là de t'intéresser à la nutrition intuitive? Puis de où ça vient cette tendance-là, la nutrition intuitive?
Je pourrais t'en parler vraiment longtemps. Je vais essayer de faire ça bref. Là, je t'amène dans mon enfance. En fait, moi, j'ai eu une maman à la diète, comme probablement beaucoup de personnes ont eu des mamans à la diète. Puis, j'ai navigué pas mal là-dedans. Puis, en tout cas, je trouvais ça comme étrange comme façon de faire, de se priver, de pas manger certains aliments. Fait que moi, c'est ce que j'ai vu dans mon enfance. Puis, il y a comme quelque chose qui me dérangeait là-dedans. Parce que moi, ma mère, je la trouvais très belle, puis je l'aimais beaucoup, puis je l'aime encore beaucoup. Donc, ça a comme, je pourrais dire, semé une graine à ce moment-là. Puis, c'est bien plus tard rendu, ça c'est au début de mon doctorat, là on s'en va beaucoup plus loin, en fait, c'est ma directrice de doctorat qui m'avait tendu un article scientifique en me disant « Je pense que tu vas aimer ça ». C'était un article qui parlait d'alimentation intuitive. Là, on est rendu en 2009 à peu près. Puis, je trouvais ça hyper intéressant parce que non seulement on l'entend beaucoup, hein, que les diètes, ça fonctionne pas, que c'est pas bon pour la santé physique, la santé mentale, mais là, on proposait quelque chose de positif. Tu sais, l'alimentation intuitive, c'est une approche qui est positive, qui est bienveillante. C'est comme une solution de rechange aux diètes amaigrissantes. C'est comme un bonus, c'est quelque chose de plus. Cette approche-là, ben c'est vrai qu'elle est rendue très populaire là, en 2021. Moi, je l'ai découvert en 2009, mais à date de plus longtemps que ça. Là, les auteurs de l'alimentation intuitive, c'est deux diététistes californiennes, Evelyn Tribol et Elise Reich, qui ont publié un premier livre, là, Intuitive Eating, en 1995. Puis après ça, il y a eu un premier article en 1998. Puis là, la littérature scientifique, il y en a beaucoup, là, je te dirais, peut-être environ 150 articles sur le sujet. Puis c'est vraiment exponentiel. Depuis quelques années, là, ça, il y a vraiment un intérêt pour ce type d'approche-là.
OK. Puis là, c'est comme à la mode, hein? Mais en fait, je trouve qu'on est dans une drôle de place en ce moment parce que là, c'est le mois de janvier. Moi, je suis en même temps bombardé par des modèles, là, des top modèles qui parlent de body positivity, de s'accepter, mais tu sais, comme en maillot de bain, puis avec un corps, disons, parfait. Mm-hmm. Puis en même temps, on reçoit des diètes amaigrissantes, tu sais, des publicités de diètes amaigrissantes, tu sais, strictes, puis là, avec toutes les modes, là, le keto, etc. Mm-hmm. Là, on est comme pris au milieu. On dirait qu'on a comme fait un bout de chemin en termes d'accepter mm-hmm. toute la diversité corporelle. Ouais. Mais d'un autre côté, on fait encore la promotion des diètes. Fait que là, je me demande, là, cette année, est-ce que je commence ma première diète en janvier cette année? C'est-tu ta suggestion?
Jamais! Daniel, je t'aime beaucoup trop pour ça. C'est comme ça pour toutes les personnes, en fait. Je ne recommande jamais de diète. Puis ce que tu décris, c'est intéressant parce que ça porte un nom. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, une cacophonie nutritionnelle. Donc, il y a toutes sortes d'informations qui viennent de partout. Puis c'est comme un genre de trop-plein d'informations. Puis au lieu d'aider, ce que ça fait, c'est que ça risque de créer du stress, de l'anxiété par rapport à la nourriture. Il y a même du scepticisme aussi qui peut s'installer chez les personnes. Donc, de ne plus rien croire finalement. Il y a beaucoup d'informations. Il y a de l'information qui est fiable, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui est non fiable et non crédible au travers de ça. Des promesses d'avoir un corps parfait, qu'on va enfin être beau, être belle, être heureux, heureuse. Là, on est vraiment dans une culture des diètes encore. La culture des diètes, c'est un terme qu'on emploie de plus en plus, mais c'est tout ce qu'il y a autour de nous dans notre société pour nous amener à maigrir. Quand on se met à observer ça, là, c'est assez incroyable. Ça peut même être frustrant aussi, tu sais, de toujours être bombardé de messages que si tu rapetisses ton corps, si tu mincis, là, on dirait que là, tout va s'ouvrir à toi finalement. Là. Tu sais, c'est comme si la perte de poids a le dos vraiment large. Donc, on baigne là-dedans. Donc, on en arrive à penser qu'il faut maigrir justement pour avoir du succès dans la vie puis pour pouvoir mener une belle vie finalement puis être
heureux.
Oui, c'est ça. Le poids n'est pas lié au bonheur, ni à l'intelligence, ni au succès. Là, je le dis de façon un peu ironique, là, évidemment, qu'on sait ça, mais ça nous amène quand même à penser ça, qu'il faut absolument maigrir à tout prix.
OK. Fait que dans le fond, toi, tu remets en question même cette idée-là de maigrir, là, parce que dans le fond, c'est un peu ça l'alimentation intuitive, là, c'est d'éliminer l'idée même de la perte de poids à tout prix. C'est ça que je comprends?
Bien, tu sais, dans l'alimentation intuitive, il y a 10 principes, puis entre autres, le premier principe, c'est de rejeter la culture des diètes. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni par rapport à notre poids, puis qu'on n'a aucune préoccupation par rapport à ça. Ça veut juste dire qu'on prend conscience de tous ces messages-là qui nous entourent. Puis, on peut même faire un ménage aussi, hein, un ménage dans les réseaux sociaux, un ménage, des fois, c'est des carnets de points, de recettes minceurs. Tu sais, essayer de se défaire un petit peu de ça. C'est sûr que c'est dans notre environnement, c'est omniprésent, mais c'est au moins d'en prendre conscience. Puis, tu sais, c'est pas une approche de perte de poids, hein. L'alimentation intuitive, pourquoi on s'intéresse à ça? C'est pour améliorer notre relation avec la nourriture, qui est notre thème d'aujourd'hui, puis aussi pour améliorer notre relation avec notre corps. Tu sais, c'est pas minceur à tout prix, c'est plutôt de voir, ben, est-ce que j'en prends soin de mon corps? Qu'est-ce qui me permet d'accomplir aussi? Puis, c'est d'essayer de voir ça autrement, là. Tu sais, peut-être d'avoir un regard plus critique par rapport à cette situation-là, parce que c'est banalisé, hein. Je sais pas si t'as déjà remarqué ça, mais tu sais, c'est rare quasiment d'entendre des gens dire, hey, moi, je suis bien dans mon corps, puis je veux pas maigrir. Tu sais, ça passe quasiment pour quelqu'un de bizarre, là. On veut toujours changer. Oui, c'est ça. On veut toujours changer des choses. C'est comme s'il fallait tout le temps être le plus mince possible. Mais tu sais, on pourrait-tu comme arrêter ça un peu, tu sais, de diminuer ça? Tu sais, la diversité corporelle, elle va continuer d'exister encore. Tu sais, l'idée, bien, ce qu'on veut avec ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos habitudes de vie, puis le faire pour prendre soin de nous aussi, pas pour constamment contrôler notre corps, puis être, bien, des fois, j'appelle ça être en guerre avec son corps aussi, parce que c'est beaucoup d'énergie, je trouve, là.
Ben oui. Je comprends tout ce que tu dis là, ça fait bien du sens. Sauf que je suis sûr là, que ça t'arrive dans ta pratique. Toi, tu rencontres des clients qui viennent te consulter. C'est sûr qu'il y a des gens qui arrivent et qui te disent « Moi, je viens te consulter parce que je veux perdre du poids. Mm-hmm. » Ben, tu leur dis quoi? je ne sais pas qu'est-ce que tu leur dis.
Oui, de façon individuelle, tu sais, je peux donner des pistes de réponse, évidemment. Tu sais, pourquoi on veut perdre du poids? Tu sais, chaque personne, c'est unique, sa situation. Est-ce qu'il y a eu une prise de poids récente? Est-ce que c'est une personne qui a un corps qui a un corps plus gros? Quand je dis plus gros, c'est pas péjoratif du tout, là. Donc, ça va être intéressant de voir ça. C'est quoi les motivations aussi? Est-ce que cette personne-là, elle a de la pression pour perdre du poids ou elle, comment elle se sent aussi? Puis c'est un peu, comme je disais tout à l'heure aussi, d'arriver à remettre en question cette culture des diètes-là. Souvent, quand les gens veulent perdre du poids, ils n'en sont pas non plus à leur première diète amaigrissante, hein. Il y a une statistique qui montre qu'au Québec, il y a 45 % des femmes qui font au moins 2 tentatives de perte de poids par année. Donc, ça veut dire que c'est à recommencer. Donc, les gens, souvent, ils en ont fait beaucoup des diètes avant. Puis des fois, on pense que c'est ça qu'il faut faire. Des fois, on ne l'a même pas remis en question. Peut-être de s'ouvrir à autre chose aussi, de voir au niveau des habitudes de vie, qu'est-ce qui est possible d'améliorer. Mais le faire pour prendre soin de nous et non pour perdre du poids à tout prix. Parce qu'en alimentation intuitive, on travaille avec le poids naturel. On ne travaille pas avec l'indice de masse corporelle ou n'importe quel poids qu'on peut avoir en tête. T'sais, notre poids, ben, tout le monde a tendance à avoir un poids naturel, c'est-à-dire un poids avec lequel notre corps est confortable, qui nous permet de faire nos activités, puis dans lequel on se sent bien. Là. C'est un poids aussi avec lequel on a un niveau d'énergie qui est optimal aussi. Parce qu'on répond à nos besoins, on mange à notre faim, selon nos besoins, puis on est attentif aussi à comment on se sent. Fait que des fois, cette notion de poids naturel-là, ben, est plus nouvelle aussi, mais elle existe depuis quand même plusieurs années dans la littérature. Des fois, ça ne correspond pas à notre poids rêvé non plus, ce poids naturel-là, si possible. Fait que là, il y a tout un travail sur l'image corporelle, puis de voir, bien, coudonc, là, c'est vrai que si j'arrive à faire mes activités, à faire du sport, puis que je me sens bien, j'ai peut-être pas le poids rêvé, mais je suis quand même capable de l'apprécier, tu sais.
Est-ce qu'il y a une composante psychologique dans ton travail? Parce que, tu sais, là, tu parles de ça, puis, je veux dire, l'alimentation, des fois, on se dit, hey, c'est compter ses calories, c'est avoir les bons fruits et légumes, c'est d'avoir ces cinq portions de fruits et légumes. Mais dans le fond, là, ce que je comprends, là, c'est qu'il y a une grosse partie qui c'est un peu d'accepter, mettons, le corps avec lequel on est, parce qu'à un moment donné, on peut faire ce qu'on veut, puis c'est pas vrai qu'on peut modeler notre corps selon notre volonté, tu sais? Fait qu'il y a une partie d'acceptation qui est purement psychologique, puis il y a aussi une question que des fois la nourriture, ça peut être utilisé comme une stratégie de coping, là, tu sais, ou une stratégie pour vivre nos émotions, pour gérer nos émotions.
Oui.
Fait qu'il y a une grosse composante psychologique dans le travail que tu fais quand t'es en consultation privée avec quelqu'un.
Oui, bien, il y a une dimension psychologique. Moi, j'ai pas la chance d'être psychologue. À un moment donné, il faut arrêter les études. Mais j'ai fini tard. Mais c'est vrai que moi, je me suis intéressée aux perceptions puis au comportement alimentaire dans le cadre de mon doctorat en nutrition. Puis c'est vrai que l'approche de l'alimentation intuitive, bien oui, là, ce qu'on veut, c'est de comprendre nos comportements. Tu sais, plutôt que d'essayer de contrôler, là, puis de faire la bonne chose à faire, parce qu'il n'y en a pas juste une bonne chose à faire. Tu sais, c'est vraiment, je pense que ça va paraître un petit peu philosophique, là, ce que je dis, mais la bonne réponse est à l'intérieur de nous. Tu sais, fait que l'idée, c'est comme de faire un peu d'introspection, d'apprendre à s'écouter aussi, de mieux écouter ses besoins. Fait que je pense que ça, c'est vraiment comme des réflexions que j'ai des fois, mais tu sais, avant, là, la nutrition, ça s'appelait la diététique, puis là, on peut reculer, là, disons, dans les années 50, là. Tu sais, c'était très prescriptif, médical. On pourrait le voir plus de cette façon-là. Alors que, ben, il y a une personne qui mange, il y a un humain en arrière, c'est à lui qu'il faut s'intéresser. Puis l'alimentation intuitive, moi, pourquoi ça a été comme une révélation quand j'ai découvert ça, c'est qu'on s'intéresse davantage à la personne qui mange. C'est tout ce qui englobe, parce que ces comportements à lesquels on va s'intéresser, parce qu'on va essayer de comprendre tout ça. Tu sais, au niveau de, je parlais tantôt de la faim, du rassasiement, mais c'est aussi l'image corporelle, la perception de l'activité physique aussi. Tu sais, l'activité physique, des fois, on en parle dans les médias en termes de minutes, puis qu'est-ce qu'on doit accomplir, puis tout ça. Mais tu sais, si jamais, là, on n'aime pas ça, là, ben, c'est d'aller voir, ben, pourquoi c'est comme ça? T'sais, est-ce qu'on a un mauvais souvenir d'activité physique? Est-ce qu'on s'est obligé à en faire? Est-ce qu'on a été intimidé? Est-ce qu'on n'ose pas en faire parce qu'on veut pas montrer son corps? T'sais, c'est toutes des choses qui sont vraiment importantes à aller voir. Parce que à la base, c'est prendre soin de nous. Donc, si jamais c'est difficile, encore là, c'est de comprendre pourquoi. Parce que si on enlève la dimension psychologique, d'après moi, c'est plutôt, je sais pas, ça fonctionnerait peut-être bien si on était des robots, mais on est des êtres humains.
Des mécaniques, là.
Oui, exactement. Mais tu sais, il y en a des recommandations, puis c'est bien correct, là. Mais après ça, dans la façon de les appliquer, ben, c'est important de tenir compte de la personne.
Mais là, c'est drôle, c'est parce que tu parles, puis il y a un flash, il y a un mot qui me vient, mais c'est l'entraînement intuitif. Parce que ça devrait aussi exister, là. Je connais pas, j'en ai jamais entendu, là. Peut-être que ça existe déjà. Ouais. Mais je veux dire, ça devrait aussi exister, puis dans le fond, prendre soin, tu utilises le mot prendre soin de soi, mais tu sais, ça se fait d'un point de vue nutritionnel, mais ça pourrait aussi se faire d'un point de vue activité physique, puis là, ça serait le niveau d'activité physique qui te permet d'avoir un niveau d'énergie intéressant, qui te permet de garder des liens sociaux, etc.
Mais oui, tout à fait, ça se transpose dans l'activité physique. Puis je me rappelle, il y a quelques années, parce que moi, je fais, comme tu le sais, de la course à pied, ben oui. J'avais eu des petits problèmes aux chevilles, puis j'avais rencontré un kinésiologue, puis lui, il fonctionnait un peu de cette façon-là. Il disait, ben, il avait analysé ma course à pied, tout ça, puis il avait dit, bon, ben là, tu sais, je pourrais tout te calculer ça, là, tes vitesses, mais il m'avait plus décrit comment je devais me sentir, exact, pour atteindre ces vitesses-là dans mon plan d'entraînement. Puis là, hein, moi, j'avais eu une révélation. Je me disais, waouh, vous travaillez comme comme moi en nutrition, tu sais, moi, je travaille pas avec des calories, je travaille avec les sensations de faim, avec les sensations de rassasiement, avec comment on sent, qu'est-ce qu'on a envie de manger, puis vraiment d'être à l'écoute de soi. Ben, tu sais, si on le transpose à l'activité physique, ça s'applique très bien aussi, parce que là, on est avec l'activité physique, on est dans le ressenti, dans le bien-être aussi.
Mais oui.
C'est clair.
Dans le plaisir, tu sais, t'en parles souvent du plaisir de manger, mais l'activité physique, là, ça devrait aussi être plaisant, là. C'est-à-dire, se faire mal pour se faire mal, des fois, on peut retirer un certain plaisir de ça, comme quand on mange un brocoli.
Mais pas comment il est cuisiné.
OK. Mais l'activité physique, ça devrait être plaisant, comme manger, ça devrait être plaisant. Puis ça, des fois, on a des perceptions ou des idées préconçues à déconstruire pour mieux reconstruire par la suite. Là.
Oui, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, si l'activité physique, c'est quelque chose de désagréable, puis c'est une corvée, ben peut-être qu'on n'a pas trouvé l'activité physique qui nous convenait. Puis ça va être important de voir pourquoi on le fait, tu sais, parce que oui, on entend de pratiquer de l'activité physique, puis qu'on n'en fait pas assez, on n'atteint pas les recommandations, c'est vrai. Mais maintenant, pourquoi on veut le faire? Puis, tu sais, ce que tu dis tantôt, ben, par rapport à considérer l'activité physique comme une corvée, des fois, ça arrive quand on fait l'activité physique juste pour perdre du poids. Tu sais, ça se peut que ce soit parmi les raisons. Tu sais, je pense que l'activité physique, ça fait pas de tort, là. Puis, tu sais, des fois, ça améliore l'aspect physique, mais sans nécessairement modifier le poids. Tu sais, on peut avoir une meilleure équilibre, une meilleure posture, se sentir plus solide. Tu sais, c'est le fun. Puis, c'est ça. Tu sais, si on le fait, on le fait juste pour maigrir, souvent, ben on abandonne, puis c'est pas agréable. On va pas vivre des émotions positives en se forçant à faire de l'activité physique. Fait que je pense que c'est important de trouver quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous allume. Puis après ça, ben là, on part avec ça. Puis tu sais, c'est vraiment de s'attarder à comment on se sent, au bien-être qui est ressenti aussi. Puis de toute façon, là, je te dis ça, mais je pense que je l'ai dit quasiment pour les gens qui nous écoutent, parce que nous, on est d'accord avec ça. Je pense à la belle conférence qu'on avait écoutée là, de la chercheuse Isabelle Doré hein, sur l'activité physique et la santé mentale. Nous, on est déjà convaincus de ça, là. Mais c'est important de ressentir ces bienfaits-là, pas juste penser au poids.
Ben oui, exact. Là, mais il y a un problème que j'ai tout le temps avec l'alimentation intuitive, c'est que mon intuition m'envoie sur des aliments tels que des chips et des barres de chocolat aéro et des Kit Kat aussi.
OK.
Alors là, c'est quoi le problème que j'ai, mettons? Est-ce que c'est parce que j'en mange pas assez, puis là, il faudrait que je me lance dans un aéro pour jusqu'à en être tanné, puis après ça, j'aurais le goût de manger du brocoli? C'est quoi la solution pour avoir le goût de manger, finalement, du brocoli?
On voudrait que ça devienne banal, hein, c'est ça?
Ouais.
Mais il y a plusieurs choses, en fait, de voir ces aliments-là, tu sais, parce que moi, j'aime beaucoup parler de la culpabilité qu'on peut ressentir par rapport aux aliments. Puis, tu sais, dans l'alimentation intuitive, on a le concept d'aliments interdits aussi. C'est pas des aliments nécessairement qu'on mange jamais, mais c'est des aliments, des fois, ben on les mange, mais des fois, ils nous amènent de la culpabilité. Des fois, ça se peut qu'on les mange rapidement, qu'on prenne pas nécessairement le temps de les savourer, de les déguster, de s'attarder aux aspects sensoriels. Moi, ce que je propose souvent à mes clients, et mes clients, c'est que quand il y a des aliments comme ça avec lesquels on ressent de la culpabilité, parce que, ben, tu pourras me corriger, là, mais souvent, c'est qu'on les mange rapidement, puis on va en rechercher d'autres, puis on dirait qu'on n'en profite pas tant que ça. T'sais, il y a quelque chose de paradoxal. Mais si on se donne le droit d'aimer l'aliment, puis qu'on prend le temps d'en faire l'expérience, prendre le temps de déguster, essayer de le voir de façon différente, des fois, on a besoin d'une moins grande quantité pour être satisfait aussi. Puis, il y a tout l'aspect culpabilité puis l'aspect aliment interdit. Quand on essaie de s'interdire de manger quelque chose, un aliment, je vais reprendre ton exemple de chocolat aéro, je trouve ça drôle. c'est comme si les barres aéro là, sont sur un piédestal. Là. Ils sont super attirantes.
Ben oui, clairement.
Parce que c'est vraiment la perception, tu sais, de dire, ben, c'est pas la, on dira, je suis d'accord, là, c'est pas l'aliment le plus nutritif du monde, mais en même temps, ça va pas nous tuer non plus de manger des aéros de temps en temps. Fait que, tu sais, c'est comme de voir aussi, ben, si je me donne le droit d'en manger, qu'est-ce que j'aime dans cet aliment-là aussi?
Là, c'est drôle. Excuse-moi, je t'interromps, mais.
Ça va?
La barre aéro, là, j'y réfléchissais pendant que tu parlais.
Oui.
Ça me rappelle mon enfance. Des fois, on était en auto, puis ma mère, elle arrêtait de mettre du gaz, puis là, elle nous achetait une barre à aéro. Puis c'est ça, c'est pour ça que j'aime ces barres-là. Une barre à aéro, je me disais, ah, c'était le fun.
Ça demeure un plaisir. Et puis ça, c'est vraiment le fun de voir pourquoi on aime les aliments. Des fois, on s'attend pas vraiment à ça, on est plus dans la valeur nutritive, mais c'est hyper intéressant, là, des fois, les souvenirs. Puis des fois, ben oui, ça va souvent, ça remonte souvent à l'enfance aussi. Puis, fait que, tu sais, d'essayer de voir ça de façon différente, mais tu sais, l'idée aussi, c'est d'en arriver à ce que il va y avoir encore des aliments pour lesquels on va avoir des préférences, mais d'essayer de banaliser un petit peu tout ça. Pas mettre les aliments en deux catégories. C'est sûr qu'il y a des aliments plus nutritifs que d'autres, puis c'est probablement ceux-là qui vont se retrouver le plus souvent au menu. Mais sinon, tu sais, pour le reste, ben, essayez de voir dans est-ce que c'est vraiment grave? Tu sais, est-ce que je me nourris de aéro ou il y en a de temps en temps dans mon alimentation? Parce que il y a 21 repas généralement dans une semaine. Bon, il y a des collations au travers de ça. Fait que c'est d'essayer de voir, mais qu'est-ce qui revient la plupart du temps dans mon alimentation? Puis s'il y a des aliments qui sont exceptionnels, c'est pas eux qui vont faire que je vais me retrouver malade ou que mon poids va changer, là. T'sais, fait que c'est d'essayer de voir à quoi ça ressemble, d'essayer d'avoir une vision plus globale de l'alimentation. Puis surtout, qu'est-ce que j'aime dans les aliments? Puis on a le droit, là, on a des préférences, puis de se donner le droit de manger ce qu'on a envie de manger. Puis pour en revenir au brocoli, là, moi, il y avait quelque chose qui m'a fait, on est inspiré, qui a allumé dans mon cerveau. Moi, les brocolis, tu sais, quand c'est bien apprêté, c'est bon, avec un petit peu de pesto, un petit peu de parmesan grillé, c'est pas mal meilleur que des brocolis vapeur avec rien dedans, là. Tu sais, parce que moi, l'odeur de ça, les légumes vapeur, ça me rappelle mes stages à l'hôpital. Puis quand ça sent ça, les légumes étaient trop mous, c'était horrible. Il n'y a plus aucun croustillant. Ben, c'est sûr, là, ça faisait longtemps que c'était dans les trucs de vapeur. Mais ça, moi, ça ne me ferait pas aimer les légumes. Là. Mais si on met quelque chose sur... je sais que les recettes sur les plaques au four sont bien à la mode, mais si on met plein de légumes, les légumes racines, hein, les pommes de terre, les betteraves, puis qu'on assaisonne tout ça, là, c'est merveilleux. Ben, il faut que ça soit bien cuisiné aussi.
Vraiment? Ben, d'abord, ton idée de la plaque, là, c'est vrai qu'on l'oublie des fois, surtout pour le brocoli, on dirait qu'on a moins tendance à utiliser ce mode de cuisson-là avec du parmesan. C'est une très bonne idée, j'adore ta suggestion.
Avec du poivre, du pesto. Puis l'idée, t'sais, on ne veut pas s'interdire de manger certains aliments, puis on ne veut pas se forcer non plus à manger d'autres aliments. T'sais, en même temps, bon, c'est normal qu'il y ait des aliments qu'on préfère, d'autres qu'on aime un peu moins. Bon, tu sais, oui, il faut goûter puis quand même avoir une certaine variété alimentaire, mais on ne devrait pas non plus se forcer à manger des aliments qui vont pas nous satisfaire.
Là, je vais changer un petit peu de sujet, mais il y a un truc que j'ai en tête là, depuis quelques semaines, mois. C'est que là, on dirait que le message commence à passer en termes de nutrition intuitive. Puis de diversité corporelle. Tu sais, toi, je sais que ça fait très longtemps que t'en parles, là, depuis 2009, mais là, on dirait que dans les deux dernières années, Victoria's Secret ont commencé à avoir des modèles de différents corps. Même chose avec les compagnies de savon. Tous les trucs se sont comme adaptés à ça. Est-ce que tu trouves qu'on approche d'avoir terminé ce combat-là?
Certainement pas. Je trouve qu'on progresse, ça c'est certain. Peut-être, si je me souviens, des années 90-2000, il y avait beaucoup moins de diversité que maintenant. Puis c'est important pour les gens d'avoir des modèles, hein, même à la télévision, dans les téléromans, les animateurs. Tu sais, s'il y a juste un modèle présenté, puis que c'est un modèle qui est très mince, parce qu'il y a des gens qui sont naturellement très minces, évidemment, mais si on ne peut jamais s'identifier, bien, inconsciemment, je pense qu'on peut en arriver à trouver qu'on n'est pas correct. Fait que, tu sais, l'idée d'avoir une diversité de corps, de rendre ça, je vais dire encore banal, comme avec les aliments, mais avec avec les différents formats corporels, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Hey, ça fait du bien, là. » Tu sais, moi, je peux avoir quelqu'un qui me ressemble. Puis, tu sais, ça peut même être applicable à la couleur de peau aussi. Ben tu sais, oui. Quand il y a une grande diversité, à un moment donné, c'est comme si, ben, on devient habitué, puis on on sent qu'on fait partie de la gang, finalement. C'est pour ça que c'est important que ce soit bien représenté. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Je pense que ça progresse. Oui, on le voit sur les réseaux sociaux aussi. Ça fait du bien, mais il y a encore beaucoup de travail à faire aussi.
Puis, est-ce qu'il n'y a pas un danger à ça, tu sais, de faire la promotion de la diversité corporelle, dans le sens que, tu sais, c'est un peu comme de promouvoir, entre guillemets, des pas saines habitudes de vie. Est-ce qu'il y a un conflit entre les deux?
Bien, tu sais, c'est pas nécessairement un ou l'autre. Tu sais, il n'y a pas deux possibilités, deux extrêmes, disons. Je pense que une première chose, la diversité corporelle, c'est essentiel, c'est hyper important qu'on en parle. Puis, je pense qu'on se dirige on dirait que je manque de mots. C'est quelque chose de positif, on progresse, mais tu sais, il n'y a pas deux options possibles. C'est pas parce qu'on représente la diversité corporelle qu'on va dire que, bon, les habitudes de vie, il n'y a plus rien qui compte, là. Puis de toute façon, on ne peut pas déduire des habitudes de vie d'une personne à partir de son corps. Ça, moi, je dis toujours, ben, si quelqu'un est capable de faire ça, dites-moi-le, mes consultations en nutrition vont être vraiment moins longues. Je fais des blagues, là. Mais ouais. on peut pas savoir ça. Puis, tu sais, ça fait partie des préjugés à l'égard du poids. De dire, ben, je vois une personne qui est plus grosse, ben, moi, j'en déduis que cette personne-là, ben, elle mange pas bien puis qu'elle fait pas de sport. Puis l'autre personne à côté, elle qui est plus mince, ben elle, je vais déduire, cette personne-là, elle a des bonnes habitudes, tu sais, parce que son poids et cette personne-là est plus mince. Mais ça ne marche pas comme ça. Puis quand on y pense comme faut autour de nous, là, on pense aux gens qu'on connaît, là, ça ne va pas nécessairement à ça, tu sais. On peut être actif à tous les poids ou inactif, puis pour l'alimentation, c'est la même chose.
C'est
aussi.
Pareil.
Exactement. Puis, tu sais, même si on était tous actifs, qu'on avait des relativement bonnes habitudes, il y aurait quand même encore de la diversité corporelle, tu sais. Fait que l'important, tu sais, c'est vraiment de travailler sur nos habitudes de vie, pas sur notre poids directement, parce que notre poids corporel, c'est pas un comportement. On n'a pas tant de pouvoir que ça dessus.
C'est très bon. Puis, en fait, toi, tu t'en parles d'un point de vue alimentaire, mais encore une fois, le parallèle avec l'activité physique se fait. Tu sais, des fois, on pense que... Moi, j'ai coaché du badminton, puis d'autres sports un petit peu, puis je veux dire, des fois, on a tendance, comme entraîneur, à se dire, ah, lui, il sera pas bon parce qu'il est un peu plus... il est plus gras. Mais il y a des sports dans lesquels c'est pas si désavantageux d'être un peu plus lourd. Même des fois, ça peut représenter un certain avantage, comme dans les sports, surtout quand il y a du contact. Mais même dans plusieurs sports, là, tu peux te compenser, mettons, ton surplus de poids par d'autres habiletés, là, tu sais. Fait qu'il faut pas nécessairement prendre ça pour acquis que la personne, elle s'entraîne pas ou qu'elle a pas de volonté dans un sport parce que elle a un poids plus élevé que la moyenne des autres de son âge, là, tu sais. Oui. C'est extrêmement important.
Je pense que ça appartient à la personne de voir si elle est bien ou non dans son sport. Là, c'est pas aux autres de décider. Puis, j'ai deux exemples. En fait, on peut penser aux personnes qui pratiquent l'haltérophilie. On pourrait dire, hey, ces personnes-là sont bien trop grosses, là, si on les voyait dans la rue comme ça. Mais quand on les voit en train de faire leur sport, ils sont super bons, tu sais.
Ben oui.
Fait que il y a cet aspect-là. Puis tu sais, ça peut aller dans les deux sens aussi. Moi, je pratique la course à pied, puis je me souviens d'avoir déjà pensé, hey, je suis pas mince comme les magazines de course à pied, là, les des magazines. C'est sûr qu'on nous montre les gagnants. Les gagnants, on le sait, en course à pied, hein, sont souvent très petits, très... Bon, j'avais ça des petites gazelles. Mais moi, j'ai pas ce corps-là. Puis je me suis déjà demandé si la course était un sport pour moi. C'est niaiseux, hein? Puis je me disais, voyons, Karine, t'as deux jambes puis t'es capable de faire des efforts puis suivre un programme d'entraînement. Mais je me souviens de l'avoir déjà pensé. Puis je me dis, ah, mon Dieu, mais je serais passée à côté de quelque chose de vraiment incroyable. Parce que moi, c'est une des choses que je préfère au monde, de courir. Fait que tu sais, on a vraiment des fois des... c'est pas des mauvaises intentions, hein, mais je pense qu'on a des idées préconçues ou même les préjugés. Ben, tout le monde en a des préjugés, mais c'est d'en prendre conscience puis voir ce qu'on fait avec. Si on n'en est pas conscient, c'est là où c'est problématique. Mais tu sais, c'est vraiment d'arriver à remettre ça en question. Tu sais, y a-tu vraiment quelque chose qui nous démontre que ça prend un certain physique pour faire tel sport? Tu sais, non.
Fait que la solution avec la diversité corporelle, c'est de continuer à faire la promotion de cette diversité corporelle-là, tout en faisant la promotion de saines habitudes de vie. Mm-hmm. mais c'est pas irréconciliable les deux ensemble. Dans le fond, c'est juste deux choses qui sont bonnes.
Mais oui.
Qui sont pas une contre l'autre, là. C'est les deux vont ensemble, puis il faut faire la promotion des deux. C'est ça que je comprends.
Exactement. Puis, tu sais, quand on dit tu sais, par rapport à l'alimentation, tu sais, j'ai donné beaucoup de conférences, puis les gens, là, ils savent, là, qu'est-ce qui est bon à manger, tu sais. Si quelqu'un ne sait pas que des légumes, c'est bon, puis qu'il ne boit pas d'eau, puis il ne sait pas, disons, je dis, ben là, il a été pris en dessous d'une roche pendant plusieurs années là, pour ne pas savoir ça. Donc, généralement, on le sait qu'est-ce qui est bon, mais après ça, ça va être de voir comment on l'applique puis pourquoi on le fait. Toujours, tu sais, on veut avoir une fondation qui est solide, donc on veut avoir voir c'est quoi ces raisons-là. Toujours se méfier si on fait des choses seulement pour perdre du poids. Ça, je dirais de faire attention à ça. Mais si on le fait justement parce que ça fait du bien, parce qu'on se sent mieux, parce qu'on a plus d'énergie, d'avoir l'impression de bien se nourrir aussi, c'est quelque chose qui est le fun, de prendre plaisir à cuisiner, à manger ce qu'on veut, ben là, je pense qu'on est sur la bonne voie, là. Après ça, ça sera de voir à écouter respecter nos besoins. Mais encore là, tu sais, si c'est difficile, ben, l'idée, c'est pas de se juger puis de se blâmer. C'est une des choses aussi que j'aime dans l'alimentation intuitive puis des approches de pleine conscience. C'est l'idée, c'est pas de se juger puis sentir qu'on n'est pas correct. C'est plus de comprendre, ben, qu'est-ce qui nous a amené à un comportement. Puis après ça, de voir, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mes habitudes. Puis qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi. Ça concerne c'est très personnel, là, mais ça concerne chaque personne. C'est sûr qu'on a des recommandations en santé publique, hein, des minutes d'activité physique, on en a, des proportions d'aliments, on en a. Mais tu sais, même avec l'évolution de la nutrition, tu sais, je pense entre autres au guide alimentaire de 2019, on s'est défait des portions. Tu sais, c'est comme très dirigé, mais l'idée, puis on en parle aussi dans les en lien avec le guide alimentaire, c'est d'apprendre à mieux s'écouter. Nos besoins, là, on peut les calculer, c'est une chose, mais si on s'écoute, ben, ça va être encore mieux parce que nos besoins, notre faim, notre assaisissement, ben, c'est adapté à nous, c'est adapté à notre niveau d'activité physique, puis on n'a même pas besoin de calculer, c'est super.
C'est extraordinaire, mais en fait, c'est là, je n'avais même pas réalisé là, que dans le guide alimentaire canadien, maintenant, il suggérait là, de se reconnecter justement à notre sensation de satiété, mais est-ce que là, c'est très personnel comme question, mais est-ce que tu es fier comme du travail que tu as accompli? Parce que ça fait quand même, toi, longtemps que tu prêches ce message-là, puis là, il commence à passer. Fait que tu dois comme ressentir de la fierté de voir ça dans le guide alimentaire canadien.
Ah oui, ben ah, ça, c'est drôle parce que, tu sais, il y a le guide là, qui est disponible, mais il y a aussi la ligne directrice là, en lien avec le guide. Puis je me souviens, tu sais, il me semble que c'était le 19 janvier 2019. Là, ça avait été une grosse journée avec des entrevues puis plein d'affaires. Et c'est tout un événement, un guide comme ça qui sort. Puis le soir, j'étais en train de lire la ligne directrice. Puis c'est là où on parlait de faim, de satiété, d'avoir une alimentation plus intuitive. Puis après ça, là, il était tard. J'étais allée dormir. Puis je me souviens que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je suis retournée voir dans le document si j'avais pas rêvé. C'était comme wow, tu sais, le rêve de la nutritionniste qui s'est réalisé. Donc oui, moi je suis très contente, tu sais, je travaillais déjà de cette façon-là, mais c'est sûr que quand ça arrive dans les recommandations de santé publique, c'est le fun parce que là c'est encore plus appuyé en fait.
Puis c'est comme une reconnaissance, tu sais, toi maintenant c'est quelque chose que tu as vu comme 10 ans avant tout le monde, fait que tu sais, c'est quand tu fais la bonne chose 10 ans en avance sur tout le monde, c'est quand même parce que t'as reconnu quelque chose qui avait un certain potentiel. Là. C'est comme acheter des actions de Tesla là, tu sais, en 2009. t'as vu le potentiel, puis tu t'es embarqué dedans. Là. C'est félicitations pour ça, c'est très cool.
Ah ben merci, mon Dieu, venant de toi, c'est tout un compliment. mais tu sais, c'est y a quelque chose, je trouve, vraiment d'intéressant. Puis tantôt, je parlais de culture des diètes aussi, c'est de voir ça fait du bien de remettre ça en question, toute cette idée-là de, tu sais, on va entendre des messages comme on peut faire ce qu'on veut avec notre corps, puis là, fais ça, puis fais pas ça, puis il y a comme une recette, je veux dire, c'est tannant, tu sais, c'est comme si on perd de la spontanéité, le plaisir, ça n'existe plus vraiment, puis tu sais, c'est vraiment satisfaisant de s'écouter aussi, tu sais, moi, un des avantages que je vois, parce que là, on en parle, on dit, c'est donc bien merveilleux, c'est quand même un long processus, parfois, de manger de façon plus intuitive, puis je le vois auprès de mes clients, des personnes qui font énormément d'efforts pour se sortir des diètes puis du contrôle. Mais à long terme, c'est hyper le fun. Moi, quand je vois les personnes qui se font davantage confiance puis que finalement, tu sais, on n'a plus besoin d'aller vers les diètes non plus. Là. Il y a quelque chose de vraiment satisfaisant d'apprendre à bien écouter ses besoins puis d'être à l'écoute de soi. C'est le fun, ça. Puis, tu sais, ce que je vois, ben, tu sais, un des avantages, c'est que c'est durable. C'est pas à recommencer deux fois par année, là.
Non, c'est vraiment intéressant. C'est comme se libérer, finalement, de ce cercle vicieux-là des diètes amaigrissantes. Là.
C'est sûr que, tu sais, on va encore en voir des corps inaccessibles ou qui ne nous ressemblent pas vraiment ou que ça ressemble, tu sais, on n'a peut-être pas le corps rêvé ou le poids rêvé, mais on dirait que ça nous atteint un peu moins, je dirais. C'est comme si on est moins vulnérable à ces messages-là, parce qu'on, tu sais, évidemment, on peut pas se couper de la société, là. Mais comme je disais tantôt, des fois, un petit ménage de médias sociaux, puis de groupes, puis de parmi les livres ou tout ça, là, des fois, ça fait du bien aussi. D'avoir des messages plus positifs, de suivre. Là, je pense à Instagram, mais il y a plein de comptes sur la diversité corporelle. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, quand pour nous, à chaque jour, ça devient plus banal, disons. Ça, au début, c'est plus nouveau, mais ça fait du bien.
Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. En terminant, Karine, oui. Parle-nous de tes projets un petit peu pour l'année 2021.
Oui, je devrais être bonne pour prendre des vacances au mois de juin. Là, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a quelque chose qui va sortir un petit peu plus tard en 2021. Donc ça, j'en parle pas plus, c'est volontaire, mais à surveiller. sinon, ben, tu sais, j'ai toujours mon site karinegravel.com. Tous les médias sociaux sont là. J'ai une infolettre mensuelle aussi, donc pour être tenue informée des événements, tout ça, des lectures. J'ai toujours mon blog. Puis sinon, j'ai aussi une conférence disponible en ligne sur le site web du monastère des Augustines. Donc, ça fait quelques années là, que je collabore avec eux. Donc, la conférence, c'est ma recette pour se nourrir avec bienveillance. Puis, c'est 1h20 de contenu sur des choses qu'on a parlé aujourd'hui, là, la faim, le rassasiement, la perception de l'activité physique, le poids naturel et tout ça. Donc, ça, c'est disponible là, présentement pour encore longtemps.
Crème, ben, merci beaucoup, Karine, d'avoir pris le temps de venir nous parler ce midi. C'est toujours très intéressant de t'entendre parler. Puis moi, ce que je retiens, là, c'est finalement, il y a une partie d'acceptation, il y a une partie de changer ses habitudes, peut-être de consommation de contenu en ligne aussi. Puis une partie, comment je dirais ça, de se reconnecter, là, qui est un peu ton message principal, de se reconnecter à nos sensations.
Oui. Hey, merci beaucoup, Daniel.
Merci à toi. Bye. Salut, à la prochaine.